tous et à toutes. Bienvenue à l'émission La Complainte du Travail, notre deuxième émission pour la session d'automne qui s'amorce. Alors, je suis présentement en compagnie de Marie Courtemanche.
Bonjour.
Intervenante à Illusion Emploi, de Roxane Denigeard.
Bonjour.
Stagiaire à Illusion Emploi et de moi-même, Sandy Tremblay. Alors, on vous rappelle qu'Illusion Emploi est un organisme qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués et que tous nos sujets portent sur les droits en matière d'emploi. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la conciliation travail-études. Donc, une petite mise en contexte, Marie, pour nous expliquer un petit peu là, quelle ampleur ça a.
En fait, c'est un phénomène assez récent de faire travailler les étudiants. Les étudiants, auparavant, travaillaient durant l'été, mais pas en même temps que leurs études. C'est depuis les années 90, le début des années 90, que les jeunes travaillent de plus en plus. C'est apparu en même temps qu'en 1992 qu'il y a eu une loi qui a passé sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Cette loi-là, ça l'a fait beaucoup changer le milieu du travail, en fait, là, parce que ça l'a permis aux établissements commerciaux d'ouvrir le dimanche. Donc, il y avait besoin d'une main-d'œuvre qui était flexible, prête à travailler les fins de semaine. Et les étudiants étaient
bien d'accord avec ça.
Exactement.
C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est un sujet qui est encore d'actualité parce que l'an passé, la loi a permis aux propriétaires de commerce de fermer le 2 janvier. Est-ce que vous vous rappelez
de
ça?
Oui, oui.
Et pour la première fois, on a senti vraiment des réactions. Là, les gens, ben, contrairement à quand la loi a passé sur le dimanche, les gens n'étaient pas du tout prêts et prêtes à travailler le 2 janvier. C'est la seule journée qu'il y avait de congé là, pour
ça,
t'as deux
dit,
jours collés.
Tu as dit le contraire, en fait. Là, le 2, maintenant, c'est qu'ils sont obligés de fermer.
C'est ça.
OK. Ça t'avait dit d'ouvrir, hein, mais c'est de fermer.
Ah, si je me suis trompée, je m'en excuse.
C'est ouvert ou fermé, là.
Ils sont fermés maintenant le 2 janvier. Puis contrairement à quand ils ont ouvert le dimanche, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde parce que justement, les gens qui travaillent là, ce n'est pas des étudiants et des étudiantes qui ont ces congés-là. Alors là, les gens, à part les étudiants et les étudiantes, il n'y a personne qui veut travailler le 2 janvier. Là.
OK. Fait que normalement, ils étaient fermés et là, la nouvelle loi permettait d'ouvrir. Puis eux, ils ne voulaient pas ouvrir pour ne pas aller travailler.
T'as tout compris.
Et voilà.
T'es pas clair. Merci.
Bon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, après cette loi-là en 92 qui est arrivée, ça a fait un nouveau milieu de travail, les jeunes étaient prêts à y aller. Bien, aujourd'hui, 72 % des cégepiens travaillent. C'est énorme. C'est pratiquement tous les jeunes, là. Puis il y a un jeune sur quatre qui fait plus que 20 heures par semaine. Fait que c'est beaucoup aussi.
Dans quel secteur ils travaillent?
Surtout dans le commerce au détail, dans les dépanneurs, la restauration. C'est pas mal les milieux de travail.
Des emplois avec des très hauts salaires.
Non, très bas salaires.
C'était sarcastique.
Avec des très bas salaires, avec des conditions plutôt précaires. 56 % des jeunes se sentent stressés. Fait que c'est ce qui est un peu dommage après d'avoir à arrimer toute cette cédule-là, là, parce que avec si on cumule le temps qui passe à l'école, le temps qu'il travaille, les devoirs qu'il a à faire en dehors des heures de classe, là, c'est en moyenne 50 heures par semaine que les jeunes ils font, qui ont un temps occupé. Là, fait que le temps pour les loisirs diminue.
Il diminue, puis en plus, c'est quand même quelque chose d'important pour un jeune étudiant ou étudiante d'avoir du temps pour ses loisirs, de partager du temps avec ses amis. Et souvent, moi, je me souviens quand j'étais étudiante, en tout cas, c'est très personnel, mais tu ne vas pas couper sur ce temps de loisirs-là, tu vas juste rajouter ça. Fait qu'en plus du stress, tu vis une fatigue intense aussi parce que tu dors moins, etc. Là.
Exactement. Ouais. On coupe dans le sommeil au lieu d'aller couper dans les activités. Là.
Et ça, les études démontrent que ça a un impact très grand sur les accidents au milieu de travail parce que les jeunes sont très vulnérables aux accidents au milieu de travail. Et ce qui est démontré, c'est que les horaires irréguliers, le fait qu'ils sont très occupés en dehors de leur travail puis avec l'école et les amis et tout, fait en sorte que quand ils arrivent sur leur milieu de travail, ils sont moins disposés à respecter les règles de sécurité, à prendre le temps de travailler, d'appliquer toutes les règles de santé et sécurité, et ça augmente le risque d'accident au milieu de travail.
Exactement. Ça fait aussi que les jeunes, ils vont couper un peu dans leurs heures d'études à la maison. S'ils font environ... La moyenne, là, c'est de 17 heures par semaine au travail. Puis on sait que quand on fait une technique, supposons au cégep, c'est environ 30 heures de cours. Puis après ça, bon, ben, il reste à peu près 12 heures qu'ils vont faire pour leurs études à la maison. Ce qui n'est quand même pas énorme parce que c'est beaucoup d'heures de travaux là, quand on a une technique à accomplir.
Est-ce que les jeunes commencent à travailler à partir de leur entrée au cégep?
Pas nécessairement, en fait. Nous, on donne des formations dans les écoles secondaires à Illusion Emploi sur les droits en matière d'emploi. Puis on demande toujours aux jeunes s'ils travaillent ou s'ils travaillent pas. Et puis, ce qu'on constate, en fait, juste, on n'a pas de chiffres, on n'a jamais compilé ça, là, mais ce qu'on constate, c'est que plus que la moitié des jeunes de secondaire 5 travaillent. Mm-hmm. Puis en secondaire 3, on est allé des fois donner des formations. Puis en secondaire 3, là, il y a au moins le tiers des élèves qui travaillent également.
Et c'est leur énorme. Raison à eux, quand tu es au secondaire, pourquoi tu choisis de travailler? J'imagine, on va en parler un petit peu plus tard.
Oui, on va en parler un petit peu plus
d'accord.
tard.
D'accord. On va revenir là-dessus. C'est important de se poser la question.
Oui,
on va
oui,
y
oui.
revenir.
Oui, on va y revenir un peu plus tard. Là, c'est ce que j'avais envie de te dire, c'est que tu disais tout à l'heure que c'est dans les secteurs de la restauration, du commerce au détail, mais c'est vraiment tout le milieu du marché du travail qui a changé. Hein. Avant, il y avait moins de commerce au détail, puis il y avait moins de c'est nouveau, c'est ça.
Il y avait
plus de manufactures, c'est ça, puis là, il y en a moins. Là. C'est nouveau, cette effervescence. Fait que c'est ça aussi qui a fait beaucoup d'emplois atypiques. Donc, une ouverture de poste pour les jeunes, là, c'est facile pour eux d'avoir un emploi.
Et d'ailleurs, la région de Sherbrooke n'y échappe pas parce que quand on enlève tous les emplois qui sont dans le secteur de la santé, des services sociaux et de l'éducation, donc nos services gouvernementaux qu'on offre dans la région, on constate que la plupart des emplois sont dans le secteur du commerce et de la restauration, et ce, pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Puis c'est sûr que, comme tu le disais tout à l'heure, ces secteurs-là, bon, c'est les secteurs où on retrouve les salaires les plus faibles, les conditions les moins élevées, aucun avantage social, et c'est là qu'on retrouve les jeunes et aussi principalement des femmes.
Exactement.
Oui.
Puis, on pourrait penser, ah, ben là, tu sais, si un étudiant ne travaille pas, il doit avoir des bien meilleurs résultats scolaires. En fait, il y a 15 % de la population étudiante qui ne travaille pas au cégep, là. Si on y voit un peu plus vieux que le secondaire, mais ils n'ont pas nécessairement des meilleures notes. Ce qu'on constate, c'est que les gens qui travaillent en bas de 20 heures par semaine, ils sont souvent plus aptes à gérer leur temps. Ils sont avec un agenda complètement comble, là, mais vu qu'ils ont tellement d'affaires de céduler, ben ils réussissent à planifier tout ça. Puis ils mettent là-dedans du temps pour leurs études, puis...
Le parascolaire aussi, j'imagine, l'implication à l'extérieur de l'école, là, tout ce qui est parascolaire, ça peut être du sport, de théâtre, quelque chose, d'aller chercher une autre style de formation, là, des enrichissements. Peut-être que ces gens-là, je dis ça sous toute réserve, mais j'imagine que ces gens-là ont peut-être plus de temps, et ça doit être en partie ça qui remplit leur agenda. Le
non, c'est les jeunes qui travaillent qui ont beaucoup de... qui ont un agenda complètement comble, que je disais.
Ah,
c'est les jeunes qui ne travaillent pas, qui ont
excuse-moi,
un agenda...
Excuse-moi, j'ai de la misère à tuer ce matin. Là, j'en viens. Excuse-moi.
Les jeunes qui ne travaillent pas ont un agenda moins comble, mais ils font justement plus de temps libre et planifient moins bien pour le temps pour les travaux.
Ah, d'accord.
Tandis que vu que quand tu travailles, tu as un agenda comble, puis là, ben, tu planifies tout, puis là, tu as un temps alloué pour tes travaux. On va se comprendre. Donc, mais ce que ça implique, là, ce temps-là à gérer, ça implique un important stress. Les jeunes, ils sont souvent en stand-by, en attente d'appel de leur patron pour aller travailler. Fait qu'il y en a plusieurs qui sont au bout du rouleau. C'est malheureux. Puis, il y a... quand un jeune, il travaille plus que 20 heures par semaine, là, tantôt, on a vu un jeune sur quatre, là, mais là, par exemple, il y a une chute dramatique des notes. Là, c'est plus difficile à aller tous ensemble.
On doit quand même acquérir quelque chose là, en travaillant. Là. Ça doit être quand même bénéfique à certains niveaux pour un étudiant ou une étudiante d'aller sur le marché du travail.
Certainement, ça favorise l'autonomie, la discipline puis l'estime de soi. Fait que c'est pour ça que les jeunes ils sentent quand même bien d'aller travailler. Fait que c'est pour ça que c'est important de concilier le travail et les études. C'est aux jeunes aussi. On va voir tantôt d'autres solutions, là, mais les jeunes aussi, c'est à eux à respecter leurs limites et à apprendre à ne pas prendre trop d'heures de travail.
Et ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que le débat de fond sur le travail chez les jeunes est aussi là. Puis ça, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais le besoin de consommer, hein, le besoin d'acheter des choses, du matériel. Tu sais, nous, on va dans les écoles secondaires. Toutes les jeunes ont un iPod, toutes les jeunes ont un cellulaire, ou pratiquement toutes les jeunes. Alors ça, c'est pas toujours nécessairement les parents qui vont payer en arrière de ça. Fait que le jeune est peut-être pas obligé, là, mais le choix de consommation que la personne fait peut stimuler son envie de se dépenser au travail puis d'aller chercher des sous là, mm-hmm. un peu partout. Roxane, toi, t'es étudiante, mais tu travailles aussi à temps partiel?
Oui, c'est ça.
Oui?
Par semaine, dans le fond, je travaille entre 15 et 30 heures. Ça fait beaucoup, sauf que... ben moi, ça fait longtemps que je travaille. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je travaille autant d'heures. Donc, c'est presque devenu une habitude. Mm-hmm. C'est malheureux, mais...
Puis, est-ce que tu travailles... ça, on pourrait y revenir tout à l'heure aussi. Tu l'as dit, presque 35, 30 heures. excuse-moi, entre 15 et 30 heures. OK. Et est-ce que tu travailles pour avoir de l'argent ou pour payer un petit surplus des prêts et bourses, quelque chose d'autre, ou la raison principale qui fait en sorte que tu as choisi de travailler?
C'est sûr qu'on ne travaille jamais pour la même raison. Ça dépend toujours du moment. Il y a des fois où est-ce que tu as peut-être des frais dentaires ou que tu n'es pas couvert. Il y a des fois, c'est surtout logement, nourriture. Aussi, tu essaies toujours d'avoir une petite avance sur tes prêts et bourses parce qu'il va falloir que tu les payes un jour. Puis aussi, faut pas se le cacher, la vie sociale, c'est important, je pense, pour la santé mentale.
C'est d'ailleurs un besoin essentiel. Quand tu regardes toute la liste des besoins essentiels, les loisirs font partie de ça, parce que tout le monde est conscient que si une personne ne se garde jamais, vient un temps où, à un moment donné, effectivement, c'est la santé mentale qui coupe. Alors, toi, tu calculerais que tu consacres combien de temps à tes travaux en dehors des heures de cours? Tu es à l'université quand même, j'imagine que c'est un peu plus...
Ça dépend des programmes. Moi, mon programme, j'ai pas plus que 8 à 12 heures d'études par semaine dans une session normale. Par contre, là, je suis en stage, donc j'ai un peu moins de travaux après. Je dirais peut-être 1 à 2 heures par semaine. Par contre, j'ai plus d'heures de stage que de cours.
Mm-hmm. Et on va te combler ton temps à la maison bientôt. On va te faire une liste de tâches à faire de chez toi. Alors, je pense qu'on serait rendu à une petite pause. Allons en musique. On va vous laisser avec Richard Séguin. Et on revient tout de suite après.
Il savait pas lire, mais il est instruit. Il disait, c'est comme une roue. Tu lâches l'école, tu cherches un job, tu débrouilles, tu décodes. Un jour, il a dit, tu peux-tu lire le journal pour moi? Je pense que c'était sa façon de rattraper le temps qu'il avait perdu. Ou simplement que ce jour-là, il aurait aimé ça lire les graffitis sur les murs. Et les bouts de papier! Tout seul ou à tout le monde, il parle du temps qu'il fera demain. Lâcher l'école sans trop savoir, 20 ans plus tard, il cherche encore. Il cherche les mots et la manière. Quand il est nerveux, il n'ose pas rien faire. Il en veut aux autres qui l'ont laissé. Des bouts de papier qui traînent dans rue sont comme les livres qu'il n'a jamais lu. Quand tu sais juste écrire ton nom, un nom perdu parmi tant d'autres. Est-ce
CFLX FM
95,5. CFLX.qc.ca.
Alors, bienvenue à la Complainte du travail. Je vous rappelle que le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est la conciliation travail-études. Alors, juste avant d'aller en musique, Roxane nous donnait ses motivations à elle de travailler, que j'ai trouvé très bonne en passant, et que tu t'exprimes bien à la radio. Alors, pour te mettre en confiance, mais Marie, j'aimerais savoir si les études démontrent que c'est à peu près les mêmes raisons pour tous les jeunes ou s'il y a des disparités.
C'est sûr qu'au secondaire puis au cégep, c'est un peu différent. Au secondaire, là, j'avais lu une étude qui avait été faite à Magog, puis qu'on se disait, ah oui, les jeunes travaillent pour le luxe, mais pas seulement ça, qu'il y avait aussi des jeunes qui travaillaient pour aider leur famille. Mais ça, c'était spécifique à Magog que j'avais vu qu'il y avait une étude qui disait ça.
Il faut dire que le taux de perte d'emploi est assez élevé dans la région de Magog. J'imagine que un revenu de plus
dans la famille
peut pas nuire.
Exactement. Sinon, en fait, ça a été noté que les garçons travaillent plus pour leur consommation personnelle, les filles plus pour une expérience, pour le développement du sens des responsabilités puis le développement personnel. Ça, c'était un peu différent selon les sexes. Mais en général, là, si on met tout ça ensemble, là, au cégep, là, il y a 15% des jeunes qui travaillent pour payer leur loyer, l'épicerie, les factures. Et c'est 79% que c'est pour accroître leur autonomie financière. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas demander à leurs parents pour s'acheter des choses. Fait qu'ils veulent pouvoir, c'est la consommation, en fait. Mm-hmm. Et c'est énorme. Fait que c'est 80% quasiment des jeunes que eux, c'est pour consommer là, qu'ils travaillent. Fait qu'ils se mettent un gros stress, en fait, pour pouvoir s'acheter plus de BBL. Mais bon, ça, c'est mon opinion de non-consommation qui sort. sauf que le problème, c'est que les moyens sont quand même limités. C'est même si tu travailles, quand tu travailles au salaire minimum, ça te fait pas un salaire de fou pour t'acheter une auto.
Et que la publicité vise particulièrement les jeunes adultes.
Exactement. Fait que l'endettement, elle n'arrête pas d'augmenter. Là. Les jeunes, ils sont un petit peu...
Et d'ailleurs, traversons un petit peu dans le domaine de la consommation, et j'ai toujours trouvé aberrant le fait que dans les premières journées scolaires, toutes les compagnies de cartes de crédit ont des kiosques dans les cégeps et universités et attendent de pied ferme les étudiants et les étudiantes pour leur offrir leur première carte de crédit. Et ça, on sait que c'est un piège.
Dans le mode de la consommation. Oui, ben, puis c'est ça. Il y a environ 70% des jeunes qui habitent chez leurs parents au cégep. Donc, c'est pas nécessairement pour le loyer ou pour les factures qu'ils vont travailler.
Intéressant. Alors, on a vu un petit peu l'ampleur de la situation, les raisons qui stimulaient les jeunes à aller sur le marché du travail. Mais quelles sont les conséquences, on a parlé tout à l'heure un petit peu des résultats scolaires, mais quelles sont les autres conséquences du travail chez les étudiants et les étudiantes?
Bien, c'est de la fatigue, de l'épuisement. Y a des jeunes qui vont rater l'école pour pouvoir se reposer.
Ou pour travailler.
Ouais, ou pour travailler, parce qu'ils se disent, dans le fond, je ne vais pas manquer mon emploi et je vais perdre ma job. Fait que là, je suis peine trop brûlée. Je vais me coucher au lieu d'aller à l'école. Ça, c'est un petit peu dommage. Y a beaucoup de jeunes aussi que... OK, c'est ça. Ça a un risque accru pour les difficultés scolaires, mais ce n'est pas nécessairement tous les jeunes. Comme je disais tantôt, là, il y en a beaucoup qui réussissent très bien, qui ont des super bons résultats, même s'ils vont à l'école, même s'ils travaillent, vont à l'école, ils concilient tout ça, puis ça va super bien. Sauf que ça peut devenir un risque pour avoir du décrochage puis des difficultés scolaires quand quelques raisons embarquent que je vais vous énumérer. Quand un emploi empêche de consacrer du temps pour tes travaux. Si là, tu négliges tes travaux, bon, mais ça peut devenir un risque d'abandon ou de difficultés scolaires. Quand aussi, ça arrive en décembre, on voit ça, que ça augmente le nombre de travail que tu as à faire, mais en même temps, c'est ta fin de session, puis là, tu augmentes, tu as plus de travaux à faire
et
à l'école.
C'est le temps de Noël, donc les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, font de l'argent. Fait
qu'on
fait plus d'heures, mais ça tombe en même temps que la fin de session.
C'est ça. Fait qu'en décembre, là, c'est une grosse difficulté pour les jeunes. Là, ça peut leur amener à rater leur fin de session. Là. Quand on le dit, quand on manque des cours pour aller travailler, quand on va à l'école plus longtemps pour concilier le travail puis l'étude, au lieu de faire ma technique en 3 ans, je vais la faire en 4-5 ans parce que je vais prendre moins de cours pour pouvoir travailler, bien, ça peut démotiver un jeune puis l'amener à lâcher l'école.
J'ai une pensée à quelque chose. Vous souvenez-vous de l'initiative de l'an passé? Je pense que ça s'est fait en Estrie, je ne me souviens pas dans quelle MRC, où je pense que c'était à travers toutes les MRC, peu importe. On avait demandé, l'étape jeunesse avait demandé aux professionnels, que ce soit les dentistes, les médecins, de faire attention et de garder des plages horaires le jeudi soir, le vendredi soir, pour les étudiants et les étudiantes, pour ne pas qu'ils aient à manquer des cours pour aller chez le dentiste ou suivre les cours, les fameux cours de conduite, des choses comme ça. Mais c'est drôle parce que ça avait quand même bien marché, cette sensibilisation-là, face aux professionnels de la santé et autres, mais on ne retrouve pas ça ou pratiquement pas dans le domaine du travail puis des employeurs. Il y a certaines ressources, là, tu vas en parler tout à l'heure si je ne me trompe pas, mais il faudrait vraiment mettre l'emphase aussi puis demander aux employeurs d'être conciliants.
Oui, non, c'est une bonne affaire, ça. Je sais que ça s'était fait à Asbestos dans la MRC.
Mais je pense que c'était plusieurs MRC. Ouais.
Il avait distribué le calendrier scolaire à tous les gens qui travaillent, les professionnels qui travaillent, pour donner des rendez-vous, les journées de planification pour les jeunes du secondaire, surtout.
De faire attention à ça, tu sais, de garder des plages horaires puis de prioriser les jeunes qui sont aux études.
Exactement. Ça peut devenir aussi une difficulté quand que tu manques d'énergie pour faire tes travaux après avoir fait ta job, là, quand que là, tu tombes trop épuisé. Puis quand tu as des notes faibles, mais là, après ça, tu n'as plus de motivation, puis l'école commence à passer en deuxième.
Et il y a le risque de décrochage scolaire, comme tu l'as mentionné.
C'est ça. Donc, ça l'amène le 1/10, en fait, des gens qui travaillent qui sont en risque de décrochage.
Mais est-ce que tu penses que les employeurs ont avantage? Y a-t-il des conséquences pour les dirigeants d'entreprise qui ne se préoccupent pas en tout de la conciliation travail-études? Parce qu'il y en a, là, qui font travailler. Parce que dans la loi sur les normes du travail, on sait qu'un employeur, si le jeune n'a pas fini ses études secondaires, ne peut pas le faire travailler entre 11 heures le soir et 6 heures du matin. Et ne peut pas lui faire travailler, évidemment, un jour où il y a de l'école. Là. On s'entend, à moins que le jeune ait plus de 16 ans et ait lâché l'école. Mais pour les employeurs, est-ce qu'il y a des conséquences au-delà de ça?
En fait, c'est sûr que si les employeurs y appliquent pas une conciliation travail-études, ben les jeunes ils vont être sous-scolarisés. T'sais, on va avoir plus de décrochage scolaire, puis on va avoir des moins bonnes notes, puis les jeunes ils vont lâcher l'école plus rapidement. Donc ça, s'il y a une sous-scolarisation, ben c'est les dirigeants d'entreprise qui vont payer pour dans pas long, parce que on sait que sur le marché du travail, il y a de plus en plus d'emplois qui demandent d'avoir des gens plus scolarisés. Donc là, si on les aide pas pendant qu'ils sont aux études, ben ils réussiront pas à atteindre ces postes-là.
C'est malheureux parce que c'est pas les mêmes domaines d'emploi. Hein. Évidemment, quand tu fais tes études, tu travailles dans le domaine du secteur du commerce et de la restauration. T'as pas l'employeur qui, lui, est dans une entreprise pharmaceutique ou quoi que ce soit, qui aurait besoin de quelqu'un qui a des études spécifiques. Il a pas nécessairement conscience que s'il fait pas attention à la job-in que tu as en ce moment, il ne pourra peut-être pas t'avoir dans quelques années.
Exactement.
Ça devient un problème de société aussi, parce que ça fait une sous-scolarisation de l'ensemble de la société.
Exactement. Fait que ça fait un problème pour les dirigeants, pour recruter la main-d'œuvre, puis pour la productivité. Là. Puis ça fait aussi accroître la productivité si quelqu'un il fait la conciliation travail-études, parce que le jeune, il va être plus en forme, plus en forme. Il va avoir plus d'énergie, donc il va donner un meilleur résultat à son travail, un meilleur rendement.
Y a-t-il des solutions à tout cela? On a vu la problématique dans son ensemble. Là, ce qu'on voudrait savoir, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? On ne veut pas que les jeunes arrêtent de travailler, parce que, tu l'as dit tantôt, il y a des aspects très bénéfiques au travail, que ce soit l'autonomie, les apprentissages qu'on peut y acquérir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que cette problématique-là n'ait plus les impacts négatifs qu'on connaît?
C'est un grand débat de société qu'on aurait besoin de faire, de remanier au Québec là, l'entière population qui se questionne sur ce sujet-là, justement. Où on est rendu avec la consommation? C'est quoi le plus important? Non, OK, nos jeunes, on peut les faire travailler, ça les développe l'autonomie, comme tu dis, ça. Puis, tu sais, ils ont des bonnes notes en plus, ça va, mais de ne pas dépasser ces heures-là, puis de ne pas les inciter non plus à consommer. Puis, tu sais, fait que c'est là où ce que... on devrait miser beaucoup plus sur l'avenir de notre société pour avoir une société qui est plus sur le savoir et les emplois spécialisés.
Et tiens, on parlait, juste une petite aparté, parce que je trouve que c'est important, on parlait que c'est un débat de société, c'est tous les acteurs qui ont un mot à dire là-dedans. Parce que tout à l'heure, Roxane a dit, moi, je travaille entre autres pour payer mon loyer. C'est pas normal qu'on soit pas capable de se loger sans y mettre 50 % de notre revenu. Peut-être que si les loyers étaient un petit peu moins chers, qu'on était moins dans la concurrence au niveau des loyers, les gens pourraient se loger à moindre prix, puis ils n'auraient pas nécessairement besoin, dans certains cas, de travailler autant pour se loger. Et ça vaut pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et non pas seulement pour les jeunes. Fait que, comme tu disais, c'est vraiment un débat de société, puis c'est tout le monde qui a affaire à discuter là-dedans.
Exactement. Une autre solution, là, ce serait les parents. Les parents qui pourraient soutenir mieux leurs enfants financièrement, c'est sûr que ça l'aiderait, là, mais aussi moralement. puis d'être attentif aux signes de fatigue puis de dépression chez leurs jeunes pour se rendre compte que peut-être qu'ils sont rendus au bout du rouleau puis que peut-être que c'est excessif leurs heures de travail puis les encadrer un peu là-dedans.
C'est sûr que l'aide financière, il y a personne qui peut faire des miracles, surtout dans la situation économique qu'on connaît en ce
exactement.
Moment. Mais quand tu parles de dépression, de lassitude, d'aller chercher les ressources aussi. Votre jeune est au cégep, il y a des ressources qui existent au cégep, que ce soit pour au cégep ou à l'université, c'est la même chose. Des boîtes de nourriture, des friperies pour essayer d'aller s'acheter des vêtements moins chers, d'aller utiliser un petit peu les ressources pour diminuer. Ça dure un temps quand même, les études. Après ça, on espère s'en sortir un peu mieux, mais de diminuer un peu les frais qui entourent là, toutes ces longues années.
Comme j'ai dit tantôt, c'est un débat de société, mais l'État aussi, elle pourrait établir des règles avec une loi qui limiterait le nombre d'heures quand tu es un étudiant, puis qu'on pourrait concilier aussi le travail avec la fin de session. Fait que ce serait aussi important que l'État arrive. On a dit tantôt que pour le secondaire, là, ils ne peuvent pas travailler après 11 heures, mais pour le cégep aussi, limiter les nombres d'heures. Ce serait aussi aux entreprises de mettre la pédale douce, d'en demander un petit peu moins, puis d'essayer de faire de la conciliation travail-études. On a d'ailleurs le RONA qui a mis à la disposition des jeunes une salle du savoir qui est pour étudier pendant les pauses, puis qui donne une bourse à ces jeunes qui étudient. Quand ils finissent leurs études, s'ils ont réussi à avoir une technique ou un bac, mais ils vont donner 300 $ si ça fait un an que le jeune travaille là, 500 $ si ça fait 2 ans, puis 700 si ça fait 3 ans. Puis ils ne font jamais travailler leurs jeunes plus que 15 à 20 heures. Fait que ça, c'est comme un bon exemple. Mm-hmm. Il y a aussi à Magog, en fait, l'école secondaire La Ruche puis la table jeunesse socio-économique qui ont fait ils ont demandé aux employeurs de limiter les nombres d'heures à environ 10 heures par semaine pour la période d'examen pour tout le mois de mai puis juin l'année dernière.
Ça avait quand même bien marché. Hein? Les résultats étaient positifs de ça. Il y avait eu une réception quand même intéressante chez les employeurs. C'est pas tout le monde qui a embarqué là-dedans, mais quand même.
Oui, puis ils sont aussi en train de développer à la table de concertation jeunesse une politique vraiment travail, conciliation, travail, études avec des entreprises de Magog.
Intéressant.
Fait que là, c'est un projet à venir. Là. C'est sûr que aussi les étudiants, il faut qu'eux-mêmes ils voient à réduire, à limiter leur nombre d'heures.
Leurs besoins.
C'est ça. C'est à eux aussi à prendre la responsabilité sur leurs épaules.
Alors, si jamais le sujet vous a tellement intéressé, que vous voulez en savoir davantage, sachez que la plupart de nos renseignements proviennent de Jacques Hamel, qui est professeur de sociologie à l'Université de Montréal et qui est membre de l'Observatoire Jeunes et Société. Lui a fait une étude, entre autres, avec Jacques Roy, qui est sociologue au Cégep de Sainte-Foy, et ils ont écrit ensemble un livre qui s'appelle « Entre la classe et le make-job ». Et il y a, entre autres, si vous voulez vous référer à ça, l'actualité de septembre 2008 qui peut vous donner probablement leurs références, si vous voulez les contacter par courriel ou savoir un peu plus le fond de leurs études et de leurs recherches, les résultats de leurs recherches. Vous n'hésitez pas à communiquer avec nous. On nous rappelle nos coordonnées.
À Illusion Emploi, on est au 569 dans le 819, 569-9993, au 187 rue Laurier, le local 214 et le 216.
Et la semaine prochaine, notre sujet d'émission, c'est la génération Y, ce qui n'est pas inintéressant du tout. Et on va avoir une invitée, ça va être Mme Josée Garceau, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke et qui a donné récemment une conférence sur le sujet « Comment arriver le mariage de 4 générations dans un même milieu de travail, les conflits que ça peut engendrer puis les solutions qu'on peut y apporter. » Alors, on vous laisse là-dessus puis on se retrouve la semaine prochaine.